Le capitaine Broughton, tandis qu'il marchait sur le chemin qui le ramenait à Oxney-Combe, se décida à ne rien révéler à sa tante avant le matin suivant. Il voulait repenser à tout cela, et y repenser, si possible, seul. Il avait franchi un cap dans la vie, le plus important qu'un homme pût franchir, et il voulait réfléchir pour savoir s'il avait ou non fait preuve de sagesse. « L'avez-vous vu ?» dit Miss Le Smirger, avec une grande anxiété quand il entra dans le salon. « Vous voulez dire Miss Woolsworthy ?» dit-il. « Oui, je l'ai vue, elle était sortie, je suis donc allé faire une longue promenade, et il se trouve que je l'ai rencontrée. Vous savez, ma tante, je vais aller me coucher, j'étais debout à 5 heures ce matin, et je n'ai pas arrêté de la journée. » Miss Le Smirger comprit qu'elle n'apprendrait rien ce soir-là, elle lui tendit donc un bougeoir et lui permit de gagner sa chambre. Mais le capitaine Broughton ne se mit pas tout de suite au lit, et lorsqu'il le fit, il fut incapable de s'endormir. Est-ce que le pas qu'il venait de franchir était sage? Il n'était pas homme, dans les affaires du monde, à laisser les événements guider sa vie comme tant d'autres hommes. Il avait des vues bien à lui et une théorie sur la vie. Il avait décidé que l'argent pour l'argent, ce n'était pas bien. Mais il s'était dit en lui-même que l'argent, s'il accompagnait des choses bonnes en elles-mêmes, était alors aussi une bonne chose. Concernant son mariage, il ne serait pas accompagné d'argent. Eh bien, il en avait pris son parti et en ferait son deuil. Il avait ses moyens d'existence propres, même s'il n'était pas aussi considérable qu'il aurait pu le désirer. Il avait décidé qu'il serait bon pour lui de devenir un homme marié. Sur ce point, il n'y avait donc rien à regretter. Patty Woolsworthy était bonne, pleine d'affection, intelligente et belle. De tout ceci, il était pleinement satisfait. Ce serait un comble qu'il ne soit pas satisfait maintenant, sachant que, pendant 4 mois, il n'avait cessé d'y penser de toutes ses forces. Et pourtant, bien qu'il se répétât encore maintenant qu'il était satisfait, je ne pense pas qu'il était aussi satisfait qu'il l'avait été pendant ces 4 mois. C'est bien triste à dire, mais je crois bien qu'il en était ainsi. Une fois que vous avez votre jouet, tout le plaisir de l'anticipation disparaît, surtout si vous l'avez eu facilement. Il n'avait rien dit à sa famille quant à ses intentions lors de cette seconde visite en Devonshire, et maintenant il lui fallait imaginer s'ils en seraient satisfaits ou non. Que dirait sa sœur, qui avait épousé l'honorable Augustus Gumbleton, Gold Stick and Waiting, au conseil privé de Sa Majesté la Reine? Recevrait-elle patience les bras grands ouverts et ferait-elle grand cas d'elle à Londres? Et même, jusqu'où Londres conviendrait-il à patience, ou patience à Londres? Il aurait beaucoup de travail pour faire son éducation, et il ferait même bien de commencer les leçons sans perdre de temps. Il alla jusque-là cette nuit-là, mais quand vint le matin, il alla encore un peu plus loin et commença mentalement à critiquer sa manière d'être avec lui. Certes, elle avait été très douce, très passionnée, cette prompte déclaration d'amour. Oui, elle avait été bien douce, mais... Quand, après ces petites moqueries, elle avait confessé son amour, ne l'avait-elle pas fait un peu plus librement qu'il ne convient à la délicatesse féminine? Un homme aime entendre qu'il est aimé, mais il est loin de souhaiter que la fille qu'il veut épouser se jette ainsi à son cou. Eh oui, c'est ainsi qu'il argumentait en lui-même ce matin-là, tandis qu'il faisait sa toilette. « Mais alors, c'est une brute !» te dis-tu, mon cher lecteur? Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas une brute, mais je dois te faire remarquer que quantité de brutes similaires peuvent être rencontrées sur les chemins de la vie. Quand Patience Woolsworthy lui répondit froidement, lui demandant de retourner à Londres et de réfléchir sur son amour, quand tout dans son attitude laissait penser qu'elle ne se souciait pas de lui le moins du monde, quand il était loin d'elle et se languissait d'elle, alors la possession de ses charmes, de ses talents et de sa droiture d'esprit lui avait semblé des plus désirables. Maintenant, tout cela lui appartenait. Tout lui avait en fait appartenu depuis le début. Le cœur de cette fille de la campagne était tombé au premier mot qu'il avait prononcé. Ne le lui avait-elle pas avoué? Elle était très belle, vraiment très belle. Il l'aimait sincèrement, mais ne s'était-elle pas vendue trop bon marché? Je ne veux pas dire qu'il n'était pas une brute, mais brute ou non, il était un honnête homme et n'avait aucunement l'intention, même en ce moment, en ce matin, ou même durant les jours qui suivirent, quand ses pensées se firent encore plus pressantes dans son esprit, de reprendre son serment. Au matin, pendant le petit déjeuner, il dit tout à Miss Le Smirger, avec les meilleures intentions, et elle lui confia ses propres projets concernant la propriété. J'ai toujours considéré Patience comme mon héritière, dit-elle, et je continuerai. Oh, vraiment, dit le capitaine Broughton. Mais c'est un très grand plaisir pour moi de penser qu'elle ramènera ma petite propriété à l'enfant de ma sœur. Vous aurez celle de votre mère, et ainsi tout sera rassemblé. Ah, dit le capitaine Broughton. Il avait ses propres idées sur la propriété, et cela ne lui plaisait guère, même dans les circonstances actuelles, d'entendre sa tante affirmer qu'elle se considérait libre de laisser ses terres à quelqu'un qui était par le sang quasiment étranger à la famille. « Patience le sait-elle ? » demanda-t-il. « Rien du tout, » dit Miss Le Smirger. Et plus rien ne fut dit sur le sujet. L'après-midi même, il descendit et reçut de bonne grâce la bénédiction et les félicitations du pasteur. Patience parla très peu en cette occasion. À la vérité, elle fut absente pendant la plus grande partie de l'entretien. Les deux amoureux marchèrent alors jusqu'à Oxney Combe et il y eut encore des bénédictions et des félicitations. Tout était aussi joyeux qu'une cloche de mariage, comme on dit, du moins pour Patience. Pas un mot n'était sorti de cette bouche adorée, pas un regard n'avait encore assombri ce beau visage qui eût pu gâter son bonheur. Le premier jour où il lui rendit son amour fut un jour parfaitement joyeux, et quand elle pria pour lui, agenouillée près de son lit, il n'y avait place dans son esprit pour aucune crainte qui pût gêner son bonheur. Je passerai très rapidement sur les 3 ou 4 jours qui suivirent. Qu'il suffise de dire que Patience ne les trouva pas aussi plaisants que ce jour qui suivit son engagement. Il y avait quelque chose dans les manières de son amoureux, quelque chose qu'au début elle ne pouvait pas bien définir, qui venait contrarier ses sentiments. Il lui témoignait suffisamment d'affection, même si, sur ce chapitre, elle ne réclamait pas d'excessives démonstrations, mais cette affection semblait s'accompagner. Elle n'aimait pas évoquer ce sujet en termes trop sévères. Mais était-il possible qu'il commence à se dire qu'elle n'était pas assez bien pour lui ? Et elle commença elle-même à se poser la question. Était-elle assez bien pour lui? S'il y avait le moindre doute à ce sujet, la question devait être réglée, même si son cœur devait en sortir brisé. La vérité, toutefois, était la suivante. il avait commencé cette éducation qu'il avait jugée tellement nécessaire. Et en fait, si qui que ce soit s'était essayé à enseigner à Patience, avec son consentement, l'allemand ou les mathématiques, je pense qu'il aurait trouvé en elle une étudiante appliquée. Mais il était peu probable qu'elle soit appliquée face à un maître qui avait de lui-même décidé, et sans son accord, de lui enseigner les bonnes manières. Ainsi allèrent les choses pendant 4 ou 5 jours, et le soir du 5e jour, le capitaine Broughton et sa tante vinrent prendre le thé au presbytère. Il n'arriva rien de bien particulier, mais quand le pasteur et Miss Le Smirger proposèrent une partie de backgammon, avec une grande insistance pendant toute la soirée, le capitaine Broughton eut une bonne occasion de placer un ou deux mots sur les changements que la vie londonienne exigerait chez sa bien-aimée, et quelques mots également, quelques tout petits mots, sur la plus haute position sociale à laquelle il allait permettre à son épouse d'accéder. Patience les supporta, car son père et Miss Le Smirger étaient dans la pièce. Elle les supporta fort bien, ne montrant aucun signe de colère, et endurant pour le moment le mépris pour le vieux presbytère qui était implicite dans ce discours. Alors vint le soir, et le capitaine Broughton retourna à Oxney Combe avec sa tante. « Patty, lui dit son père, avant qu'ils n'aillent tous deux se coucher, il m'a l'air d'un excellent jeune homme. « Cher papa, lui répondit-elle en l'embrassant. « Et profondément amoureux, dit Mr. Woolsworthy. « Oh, je n'en sais rien, répondit-elle, tandis qu'elle le quittait avec le sourire le plus tendre. Mais même si elle pouvait ainsi sourire aux facéties de son père, elle était déjà convaincue au fond d'elle-même qu'elle avait encore des choses à découvrir concernant son fiancé avant de s'abandonner totalement dans ses bras. Elle lui demanderait s'il jugeait qu'il était encore possible de se libérer de sa promesse de mariage. Et même s'il niait avoir la moindre pensée en ce sens, elle saurait, à la façon dont il nierait, quels étaient ses sentiments véritables. Et lui aussi, cette nuit-là, pendant sa marche silencieuse en compagnie de Miss Le Smirger, avait des pensées similaires. « Je crains qu'elle ne soit obstinée, se disait-il. » Et il en était presque aussi à l'accuser d'être boudeuse. Si tel est son tempérament, quelle vie de misère j'ai devant moi. Avez-vous déjà fixé une date ? Lui demanda sa tante, tandis qu'ils approchaient de la maison. Non, pas encore. Je ne sais pas si j'ai envie d'en fixer une avant mon départ. Comment ? Mais l'autre jour, vous sembliez si pressé. « Ah, oui, mais depuis, j'y ai beaucoup repensé. Je me serais imaginé que cela aurait pu dépendre de l'opinion de Patty, » dit Miss Le Smirger, s'efforçant de défendre les privilèges de son sexe. « Le gentleman est d'ordinaire toujours partant, du moment que la jeune fille a donné son consentement. Oui, dans les cas ordinaires, mais quand la jeune fille est extraite de sa propre sphère... » Sa propre sphère ? Laissez-moi vous mettre en garde, maître John. Ne parlez pas à Patty de sa propre sphère. Tante Pénélope, comme Patience est sur le point de devenir ma femme et non la vôtre, je réclame la permission de l'entretenir de tous les sujets que j'aurais jugés convenables. Et sur ce, ils se séparèrent, et pas dans les meilleurs termes. Le jour suivant, le capitaine Broughton et Miss Woolsworthy ne se rencontrèrent pas avant la soirée. Elle avait dit, avant que ces quelques mots malheureux n'aient franchi les lèvres de son fiancé, qu'elle se rendrait probablement chez Miss Le Smirger le matin suivant. Mais ces mots malheureux avaient effectivement franchi les lèvres de son fiancé, et en conséquence, elle resta chez elle. Elle n'était pas morose, ni même en colère. Elle avait simplement la conviction qu'elle devait encore y réfléchir longuement avant de le rencontrer à nouveau. De son côté, il ne désirait pas non plus hâter leur prochaine rencontre. Au fond de lui-même, il était certain qu'elle monterait le voir à Oxney-Combe, mais elle ne vint pas, et il descendit donc à elle dans la soirée et lui demanda de venir marcher en sa compagnie. Ils empruntèrent le chemin qui menait à Helpholm, et peu de mots furent échangés entre eux avant qu'ils aient fait ensemble quelques miles. Patience, tandis qu'elle marchait le long du chemin, se remémorait presque mot pour mot les tendres paroles qui avaient charmé ses oreilles quand elle descendait ce même chemin en sa compagnie le soir de son arrivée. Mais lui avait tout oublié de cette tendresse. N'avait-il pas fait l'imbécile ces 6 derniers mois ? Voilà la pensée qui emplissait tout son esprit. « Patience, dit-il enfin, alors qu'il n'avait prononcé depuis qu'ils avaient quitté le presbytère que quelques mots indifférents. Patience, j'espère que vous réalisez l'importance du pas que vous vous apprêtez à franchir. « Bien sûr que oui, répondit-elle. Quelle drôle de question me posez-vous là ? Parce que, dit-il, parfois j'en viens presque à en douter. J'ai l'impression que vous pensez que vous pouvez tout simplement quitter cet endroit pour votre nouvelle résidence sans plus de difficultés que lorsque vous montez à la combe. Est-ce un reproche, John ? Non, pas un reproche, mais plutôt un conseil. Certainement pas un reproche. J'en suis heureuse. Mais j'aimerais vous faire prendre la mesure du saut que vous vous apprêtez à faire dans le monde. » Et ils firent encore de nombreux pas avant qu'elle ne lui réponde. « Eh bien, dites-moi, John, lui dit-elle, quand elle eut suffisamment pesé les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer, et quand elle parla, une vive rougeur colora son visage, et ses yeux se mirent à briller presque avec colère. « De quel saut parlez-vous ? Voulez-vous dire un saut vers le haut ? Eh bien, oui, j'espère que ce sera le cas. En un sens, oui, sans aucun doute, ce serait un saut vers le haut. Être la femme de l'homme que j'aime, avoir le privilège de tenir son bonheur entre mes mains, savoir que je serai sienne, la compagne qu'il a choisie parmi la terre entière, ce serait en vérité un saut vers le haut, presque vers les cieux, s'il s'agissait bien de cela. Mais si vous voulez dire vers le haut dans un autre sens, je parlais d'une élévation sur l'échelle sociale. Alors, capitaine Broughton, cette pensée me déshonore. Vous déshonore ? Oui, elle me déshonore. Que votre père soit aux yeux du monde un plus grand homme que le mien, j'en conviens aisément. Que vous soyez plus riche que je ne le suis, j'en conviens également. Mais vous me déshonorez et vous vous déshonorez également si vous attachez quelque prix à ces choses au moment présent. Patience, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de me dire. Pardonnez-moi, mais je crois que je m'en rends tout à fait compte. Rien de ce que vous pouvez me donner, rien de cette sorte, ne peut valoir quoi que ce soit en comparaison de ce que je vous apporte. Si vous aviez toute la fortune et tout le rang du plus grand seigneur du pays, cela ne compterait pour rien dans cette matière. Si, comme je n'en ai pas douté, si en retour de mon cœur vous m'avez accordé le vôtre, alors j'ai été pleinement payé. Mais s'il s'agit de présents de cette sorte, il n'y a rien qui puisse peser le moins du monde dans la balance. « Je ne vous comprends pas bien, répondit-il après une pause. J'ai peur que vous ne soyez quelque peu emphatique. » Et alors, bien qu'il ne soit pas si tard, Ils rentrèrent au presbytère sans presque prononcer un autre mot. À ce moment, il ne restait au capitaine Broughton qu'un seul jour complet à passer à Oxney Colne. L'après-midi suivant, il devait aller jusqu'à Exeter et de là regagner Londres. Bien sûr, on s'attendait à ce que le jour du mariage soit fixé avant qu'il ne parte, et il en avait été beaucoup question pendant les deux premiers jours de son engagement. À ce moment, il avait tout fait pour avancer ce jour, et Patience, avec la réserve coutumière aux jeunes filles, avait demandé un petit délai. Mais maintenant, plus aucun mot n'était prononcé sur le sujet. Comment aurait-il été possible d'aborder la question après une conversation comme celle que j'ai rapportée? Ce soir-là, Miss Le Smirger demanda si la date avait été fixée. « Non, répondit durement le capitaine Broughton. Rien n'a été fixé. Mais cela sera arrangé avant que vous ne partiez ?»« Probablement pas, dit-il, et le sujet retomba pour le moment. John, dit-elle juste avant d'aller au lit, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et Patience, je vous conjure de me le dire. Vous feriez mieux de lui demander, répliqua-t-il. Je ne peux rien vous dire. Le matin suivant, il ne fut pas peu surpris de voir Patience sur le chemin de gravier devant le portail de Miss Le Smirger, immédiatement après le petit déjeuner. Il alla vers la porte pour lui ouvrir, et quand elle lui donna la main, elle lui dit qu'elle était montée pour lui parler. Il n'y avait aucune hésitation dans ses manières et aucune trace de colère sur son visage. Mais il y avait dans sa démarche et son allure, dans sa voix et dans sa contenance, un air décidé qu'il ne lui avait jamais vu, ou en tout cas qu'il n'avait jamais voulu voir. « Certainement, dit-il. Voulez-vous que je sorte avec vous ou voulez-vous que nous montions ?»« Nous pouvons nous asseoir dans le pavillon, dit-elle. » Et ainsi fut fait. « Capitaine Broughton, dit-elle. » Et elle s'attela à sa tâche dès qu'ils furent tous deux assis. « Vous et moi nous sommes engagés comme mari et femme, et peut-être nous sommes-nous quelque peu précipités. » Comment cela ? Il est possible, et je n'en dirai pas plus, que nous ayons pris cet engagement sans en savoir assez sur le caractère l'un de l'autre. Je n'ai aucun doute de ce genre. Le temps viendra peut-être pour cela, mais dans l'intérêt de tout ce que nous avons de plus précieux, qu'il vienne avant qu'il ne soit trop tard. Quel serait notre sort, comme nous serions malheureux ? Si de telles pensées nous venaient, à vous ou à moi, après que nous ayons lié notre sort l'un à l'autre. » Elle parlait avec une solennité telle qu'il en était presque muet, ce qui, pour un moment, l'empêcha de prendre ce ton d'autorité qu'il aurait naturellement adopté pour un tel sujet. Mais il se reprit. « J'ai l'impression que c'est à votre esprit que se présentent ces pensées, dit-il. » Et à qui d'autre ? Qui peut mener ce combat à ma place ? Et John, qui d'autre peut mener ce combat de votre côté ? Je vous le dis, si vous avez à mon sujet les mêmes pensées que vous avez à ce moment même, vous ne sauriez m'offrir votre main devant l'autel avec de franches paroles et une conscience sereine. N'ai-je pas raison ? Vous regrettez déjà à demi votre engagement, n'est-ce pas ? Il ne lui répondit pas, mais se levant de son siège, il marcha jusque devant le pavillon et resta là, lui tournant le dos. Ce n'était pas qu'il souhaitât se montrer discourtois, mais il ne savait véritablement quoi lui répondre. En vérité, il regrettait déjà son engagement. « John, dit-elle, se levant et venant à lui, afin de pouvoir poser la main sur son bras. « J'ai été très fâché contre vous. »« Fâché contre moi ? » dit-il, se retournant vivement. Oui, fâché contre vous. Vous m'avez traité comme une enfant. Mais ce sentiment a disparu maintenant. Voici ma main, la main d'une amie. Que les mots qui ont été prononcés entre nous s'évanouissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Que nous soyons tous deux libres. Le pensez-vous vraiment? Certainement. Et tandis qu'elle prononçait ce mot, les yeux de Patience s'emplirent de larmes malgré tous ses efforts. Mais il ne la regardait pas et elle parvint à faire en sorte qu'il ne puisse entendre ses soupirs. « De tout mon cœur, » dit-il, et au ton qu'il prit, il était évident qu'il n'avait songé à son bonheur à elle quand il parlait. Il était vrai qu'elle avait été en colère contre lui, fâchée comme elle l'avait dit elle-même. Mais en dépit de tout, dans tout ce qu'elle avait dit, dans tout ce qu'elle avait fait, elle avait toujours songé en premier à son bonheur à lui. Maintenant, elle était à nouveau fâchée. « De tout votre cœur, capitaine Broughton !» Eh bien, qu'il en soit ainsi. Si c'est de tout votre cœur, alors la nécessité est d'autant plus impérieuse. Vous partez demain. Nous dirons-nous adieu maintenant? Patience, vous n'allez pas me faire la morale.
Certainement pas moi. Nous dirons-nous adieu maintenant?
Oui, si vous êtes décidé.
Je suis décidé. Adieu, capitaine Broughton. Tous mes vœux de bonheur vous accompagnent. » Et elle lui tendit la main.
« Patience, » dit-il. Et il lui lança un regard noir, comme s'il avait essayé de la contraindre à se soumettre. Si c'était le cas, il aurait bien pu s'épargner une telle tentative.
« Adieu, capitaine Broughton. Prenez ma main, car je ne puis rester. »
Il lui donna sa main, sachant à peine pourquoi il le faisait. Elle la porta à ses lèvres, l'embrassa, et alors, le laissant, quitta le pavillon, passa le portillon et se rendit droit au presbytère. Pendant toute la journée, elle ne dit pas un mot à quiconque de ce qui était arrivé. Une fois rentrée chez elle, elle vaqua à ses affaires domestiques comme elle l'avait fait le jour de l'arrivée du capitaine. Quand elle prit place à la table du dîner auprès de son père, celui-ci ne remarqua rien qui pût lui faire penser que sa fille était malheureuse, et pendant toute la soirée, aucune expression sur son visage, aucune intonation dans sa voix n'attira son attention. Le matin suivant, le capitaine Broughton fit une visite au presbytère et la servante vint dire à sa maîtresse qu'il se trouvait dans le salon. Mais elle ne vint pas le voir.
« Seigneur, mamselle, vous vous êtes pas querellée avec votre amoureux ?» dit la pauvre fille.
« Non, pas querellée, » dit-elle, « mais donnez-lui ceci. » C'était une feuille de papier avec quelques mots tracés au crayon. « Il vaut mieux désormais ne plus nous rencontrer. Dieu vous garde. » Et depuis ce jour, il y a plus de 10 ans, ils ne se sont jamais plus rencontrés.
« Papa, » dit-elle à son père cet après-midi-là, « cher papa, ne soyez pas fâché contre moi. Tout cela ne concerne que John Broughton et moi. Père chéri, nous ne serons pas séparés. »
Il est inutile de dire ici à quel point le vieil homme fut surpris et combien il fut sincèrement malheureux. À la façon dont les choses lui avaient été rapportées, il n'avait aucune raison d'en vouloir à l'un ou à l'autre. Il ne dit pas un mot contre le prétendant qui retourna ce même jour à Londres, désormais pleinement convaincu qu'il était enfin libéré de son engagement.
« Patty, ma chère enfant, dit-il, prions Dieu que ce soit ce qu'il fallait faire. »«
C'est ce qu'il fallait faire, répondit-elle fermement. Je suis faite pour cet endroit, et je doute fermement de pouvoir en trouver un autre qui me convienne. » Ce jour-là, elle ne vit pas Miss Le Smirger,
mais le matin suivant, sachant que le capitaine Broughton était parti, car elle avait entendu les roues de la calèche qui passait devant la porte du presbytère en allant à la gare, elle monta à la combe. « Il vous l'a dit, je suppose, » dit-elle. « Oui, » dit Miss le Smirger, « et je ne le reverrai de ma vie tant qu'il n'aura pas imploré votre pardon à genoux. Je le lui ai dit, je ne lui ai même pas tendu la main à son départ. » « Mais pourquoi cela, ma très chère? La faute était de mon côté, plus encore que du sien. » « Je comprends, j'ai des yeux pour voir et pour comprendre, » dit la vieille femme. « Je l'ai observé durant ces 4 ou 5 derniers jours. Si vous aviez pu garder tout cela pour vous et le congédier, il serait à vos pieds maintenant, léchant la poussière sur vos chaussures. Mais, ma chère amie, je ne veux pas d'un homme qui lèche la poussière de mes chaussures. Ah, vous êtes folle, vous ne connaissez pas votre propre valeur. C'est vrai, j'ai été folle. J'ai été folle de penser qu'un homme qui avait mené une telle vie pourrait être heureux avec une femme telle que moi. Je sais ce qu'il en est maintenant. J'ai payé chèrement cette leçon, mais peut-être pas trop chèrement, car je sais que je ne l'oublierai jamais. Il y a peu de choses à ajouter à propos de nos 3 amis d'Oxney Colne. Et en vérité, que pourrait-on dire? Pendant 1 an ou 2, Miss le Smirger continua à espérer que son neveu viendrait réclamer sa fiancée, mais il ne le fit jamais, et il n'y eut jamais aucune correspondance entre eux. Patience Woolsworthy avait bien appris sa leçon. Elle avait donné tout son cœur à cet homme. Elle s'était si bien protégée que personne n'avait été au courant de la violence de la lutte, mais la lutte qu'elle avait menée en elle-même avait été très violente. Jamais elle ne pensa qu'elle avait mal agi, jamais elle ne regretta sa perte, et pourtant, cette perte fut très rude. Lui aussi l'avait aimé, mais il n'était pas capable d'un amour qui aurait pu troubler sa quiétude. Sa quiétude, à elle, était troublée durablement. Son père vit toujours, mais il y a maintenant un curé dans la paroisse. En sa compagnie et celle de Miss le Smirger, elle passe son temps à s'occuper des affaires de la paroisse. À ses propres yeux, elle est maintenant une véritable vieille fille, et je suis assez de son avis. Toute la romance de sa vie s'est jouée durant ce seul été. Elle ne s'assied plus jamais, solitaire, sur le versant de la colline, pensant à tout ce qu'elle pourrait offrir à un homme qu'elle aimerait vraiment. Mais son cœur est grand et nombreux sont ceux qu'elle aime. Alors, sans romance aucune, elle travaille dur pour alléger le fardeau de ceux qu'elle aime. Quant au capitaine Broughton, chacun sait qu'il épousa cette grande héritière à qui son nom avait déjà été associé et qu'il est maintenant un membre actif du Parlement, travaillant dans les commissions 3 ou 4 jours par semaine avec un zèle infatigable. Parfois, pas souvent, quand il pense à Patience Woolsworthy, un sourire de gratitude éclaire son visage.